Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
On ne naît pas femme, on le devient. Elle n'est pas née icône du féminisme, mais elle l'est devenue et surtout restée. On connaît tous son livre phare, Le deuxième sexe, mais aussi sa relation avec un autre philosophe, Jean-Paul Sartre. Ce que l'on sait moins, c'est que leur union était libre et que la professeure qu'elle était avait des amantes parmi ses propres élèves. Je vous raconte maintenant Simone de Beauvoir, une femme peut-être encore plus libre qu'on ne le pensait. Si mon histoire n'est pas banale, cela tient sans doute à la personnalité de deux de ses protagonistes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ensemble, nous formions un trio, du moins c'est ainsi qu'on m'avait présenté les choses. Je me rends compte à présent que j'ai été victime des impulsions donjuanesques de Sartre et de la protection ambivalente et louche que leur accordait le castor. J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille une chair fraîche à laquelle elle goûtait, avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Voilà ce qu'écrit l'une des élèves et amantes de Simone de Beauvoir, dite le castor, dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée. Oui, n'en déplaise à certains, l'auteur du deuxième sexe a mené une vie on ne peut plus libre, et plusieurs de ses élèves ont pu en attester. Simone de Beauvoir est née en juillet 1908 dans un milieu religieux et mondain du Paris chic de la Belle Époque. Une époque moins belle pour les femmes qui n'ont ni le droit de vote ni l'autonomie financière. À 7 ans, alors qu'elle joue au jardin du Luxembourg, une dame la félicite pour ses jolis petits mollets. En guise de réponse, Simone fronce les sourcils, croise les bras et lui répond « Je ne suis pas un corps, je suis moi ». Voilà qui est dit. À 15 ans, Simone perd la foi, mais elle rencontre Zaza. Sa nouvelle meilleure amie devient aussi son modèle. Elle se moque des conventions sociales, de sa mère, et se montre aussi insolente qu'intelligente. Ses parents entravent fortement son envie de liberté quand ils refusent qu'elle épouse un étudiant sans le sou. Folle de chagrin, Zaza tombe malade et meurt à 21 ans. Ce drame marque un tournant dans la vie de Simone de Beauvoir. Elle fustige la bourgeoisie qui a tué son amie d'enfance et refuse d'étouffer ses rêves. Femme au foyer, jamais. Elle prend alors son destin en main. En 1925, Beauvoir s'inscrit à la Sorbonne, pas pour une licence, non, pour 8. Elle veut tout savoir, tout. Mais sa passion pour la philo l'emporte, elle veut passer l'agrégation. Ses parents refusent, elle fait alors une grève de la parole. Son silence pèse, ils finissent par céder. Il est en revanche impossible pour la jeune femme de passer le concours d'entrée à l'école normale supérieure qui est interdite aux femmes. Mais rien ne l'empêche de le préparer avec les normaliens. Les garçons sont impressionnés par ce petit bout de femme passionnée et son travail acharné. Il la surnomme Beaver, le castor, parce qu'il vit en bande et a l'esprit constructeur comme elle. Un des normaliens fait chavirer son cœur. Il a la réputation d'être le plus laid, le plus sale, le plus brillant et le plus drôle. Il s'appelle Jean-Paul Sartre. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ces mots de Montaigne à la Boétie pourraient s'appliquer à Sartre et Beauvoir. Sartre, c'est le double en qui elle se retrouve. À l'amour s'ajoute une fusion intellectuelle. Jean-Paul sort premier de l'agrégation, Simone deuxième. Les voilà prêts à enseigner. Pour éviter que leurs mutations respectives les séparent, Sartre propose un mariage. La réponse est non. Céder au modèle bourgeois, il n'en est pas question. En 1931, Sartre est au Havre. Beauvoir est à Marseille, mais dès l'année suivante, elle est nommée à Rouen. Entre Rouen, Le Havre et Paris, se met en place ce qu'on va appeler la petite famille. Sartre et Beauvoir s'aiment d'un amour nécessaire, diront-ils, mais ils forment un couple libre, s'autorisant à côté des amours contingentes, à la condition de ne jamais se mentir. Ils fréquentent leurs élèves, filles et garçons confondus, car l'on aime un être et non un sexe. Il y a Jacques-Laurent Bost, élève de Sartre, et Olga Kosakiewicz, élève de Beauvoir. Dans son premier roman, L'Invité, publié chez Gallimard en 1943, Beauvoir raconte leur ménage à trois avec Olga. Cette même année, Olga épouse Bost. Les deux philosophes en sont les témoins. En 1937, Simone de Beauvoir enseigne la philosophie au lycée Molière à Paris et débute une relation avec une autre de ses élèves. Elle a 31 ans, elle 17. Elle s'appelle Bianca Binnenfeld. Simone raconte à Sartre une nuit passée avec sa désormais amante. On s'est réveillé vers 8h30 et comme un homme repu, j'ai discrètement éludé des caresses. Je voulais prendre mon petit déjeuner et travailler. Le duo se transforme alors en trio. Mais Sartre rompt brutalement avec Bianca en février 1940. Beauvoir fait de même à la fin de l'année, mais garde une bonne relation avec son ancienne élève. C'est à la fin du siècle quand Bianca découvrira la façon dont Simone parlait d'elle à Sartre dans sa correspondance, une nuit pathétique ou encore écœurante comme du foie gras et pas de la meilleure qualité, qu'elle écrira, se sentant trahie, ses mémoires d'une jeune fille dérangée, dont je vous citais un extrait tout à l'heure. Et puis, il y a Nathalie. Nathalie Sorokine, une élève rebelle dont le rire résonne dans les couloirs du lycée Molière. Une créature fascinante, insaisissable pour Simone de Beauvoir, qui va vite la surnommer « mon petit tyran ». Aux côtés des existentialistes et de Camus, Giacometti, Picasso ou Hemingway, Sartre, Beauvoir et Sorokine affrontent la guerre, l'occupation et se battent pour la liberté depuis Saint-Germain-des-Prés. La mère de Nathalie porte plainte pour, je cite, « excitation de mineurs à la débauche » en 1943 et le régime de Vichy exclut Simone de Beauvoir de l'éducation nationale. Elle est finalement réintégrée à la libération et Beauvoir aura Nathalie pour amante pendant 30 longues années. La prof immortalise même son élève sous les traits de Nadine, héroïne des mandarins pour lequel Simone de Beauvoir obtiendra le prix Goncourt. Avec Sartre, il fonde après la guerre en 1945 la revue Les Temps modernes. Sa renommée est telle qu'elle est invitée aux États-Unis. Là-bas, Simone de Beauvoir étoffe son combat et fait un parallèle entre le racisme et le sexisme. À Chicago, elle tombe une nouvelle fois amoureuse. Cette fois, ce n'est pas une élève, mais un écrivain communiste qui fait chavirer le cœur de Simone de Beauvoir, Nelson Algren. Elle l'aime follement, mais elle ne peut pas vivre avec lui. Sa place est auprès de Sartre. Depuis son retour des États-Unis, la philosophe veut enfin mener à bien son projet d'écrire sur sa vie. Pour cela, Sartre lui dit qu'il faut d'abord comprendre ce qu'est une femme. Vaste sujet, encore en friche. Pendant 2 ans, Simone de Beauvoir va lire tout ce qui existe sur son sexe, aussi bien en histoire qu'en biologie et en anthropologie, en passant par la psychanalyse. Le résultat ? Un livre encyclopédique qui déconstruit les mythes véhiculés sur les femmes depuis la nuit des temps. Et un constat. On ne naît pas femme, on le devient.
C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Interdit par le Vatican, le livre fait polémique, à droite comme à gauche. Simone de Beauvoir est présentée comme une dangereuse révolutionnaire, mais la révolution est en marche. Dès la première semaine, le deuxième sexe se vend à 30 000 exemplaires. Bientôt, on parlera en millions et le livre sera traduit dans plus de 120 langues. Plus qu'une star, son auteur est une icône de la lutte pour les droits des femmes. En 1971, Beauvoir signe dans le Nouvel Observateur le manifeste des 343 salopes pour le droit à l'avortement, puis fonde avec Gisèle Halimi l'association Choisir la cause des femmes. Les femmes, Simone de Beauvoir les a toujours aidées. Elle les a aimées aussi. Si Olga Kosakiewicz, Bianca Binnenfeld ou Nathalie Sorokine ont partagé une partie de sa vie, son pilier, son double, celui qu'elle n'a jamais quitté, c'est Sartre. Quand il meurt, le 14 avril 1980, le choc est si brutal qu'elle n'imagine pas y survivre. Elle écrira « Sa mort nous sépare, ma mort ne nous réunira pas, c'est ainsi. Il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. » Simone de Beauvoir s'éteindra 6 ans jour pour jour après lui, le 14 avril 1986, à l'âge de 78 ans. Depuis, ce sont toutes les femmes qui puisent chez elle la force de continuer le combat. La préciosité de ses conseils et de ses mises en garde ne faiblit pas. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, prévenait-elle.
Europe 1, historiquement vôtre.